L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas si vous avez fait la fête dernièrement. C'est vrai qu'avec le Covid, la fête elle a pris un grand coup dans l'aile. Mais il n'y a pas que le Covid. En réalité, toutes nos modes de vie, cette quasi-contrainte à tout le temps faire la fête, a un peu tué la fête. Et mon invité d'aujourd'hui, Jérémy Pelletier, qui est le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, mais aussi le directeur d'une collection aux éditions de l'Aube, a sorti un ouvrage qui s'appelle « La fête est finie ». Et avec Jérémy, on parle de qu'est-ce qui s'est passé pour la fête en France, pourquoi il envisage que la fête soit finie, l'impact des réseaux sociaux, l'impact des téléphones portables, l'impact de la fin des bals populaires, l'impact de la fin des boîtes de nuit, des soirées privées. Bref, on a une conversation qui est en fait hyper intéressante sur ce sujet qui nous concerne à peu près tous, parce qu'on a tous, je pense, malgré tout, envie de faire la fête. Donc je vous laisse écouter cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ben, ça va pas mal. Est-ce que tu vas faire la fête ce week-end?
Mais bien sûr, il faut faire la fête. Il faut toujours faire la fête pour décompresser, pour s'aérer la tête, s'aérer l'esprit et pour se changer les idées, notamment dans un moment où on nous reparle du virus, on nous reparle du Covid, on nous reparle de confinement, on nous reparle de masques obligatoires, etc. etc. Donc, je crois que s'il y a justement un moment où il faut faire la fête avant que tout ne referme, c'est justement maintenant et c'est justement ce week-end.
Est-ce qu'il y a, et c'est ce que tu décris un peu dans ton bouquin, une sorte... Alors, peut-être qu'on peut d'abord commencer par... c'est quoi la fête? Ça peut être une bonne question à se poser au début.
T'as raison, c'est une bonne question d'introduction. La fête, c'est un peu ce que je disais au tout début. C'est un moment séparé du reste de notre vie au quotidien. C'est un moment séparé, tu vois, de notre banalité et de la misère un peu de notre quotidien. C'est un moment à part où justement on laisse de côté le temps d'une soirée ou le temps du week-end nos problèmes perso, nos problèmes d'argent, nos problèmes de famille, nos problèmes de cœur. Voilà, c'est un moment justement où on laisse en dehors de la piste de danse, où on laisse sur le pas de la porte tous nos petits soucis du quotidien, tous nos petites angoisses et tous nos petits problèmes personnels pour penser à autre chose et pour s'aérer un peu l'esprit et s'aérer les idées. Et puis, il y a un élément, tu vois, je pense qu'il est très important quand on parle de fête, c'est la dimension collective de la fête. Et c'est pour ça que moi, le sujet, il m'a intéressé, il m'a amusé. C'est que en fait, la fête dit beaucoup de notre rapport au collectif. Et la fête, par définition, c'est un rapport au collectif. On ne fait pas la fête tout seul. Tu ne fais pas, toi, la fête tout seul dans ton appart, dans ta maison. Ça arrive. Bon, écoute, je ne te jette pas la pierre. Je ne te jette pas la pierre. Mais je pense que la fête individuelle et la fête solitaire, la fête en apéro Zoom n'est pas la fête. Tu vois, pour reprendre un phénomène que les uns et les autres ont peut-être encore en tête. Quand bien même on est sorti de confinement depuis maintenant un petit moment. Et donc voilà, la fête, c'est moment séparé du reste, moment où on laisse de côté ses problèmes perso et moment où on est avec les autres. C'est un moment collectif par essence.
Et alors justement, tu parles de moment collectif, mais est-ce que Instagram et de manière plus générale les réseaux sociaux, ça n'a pas un peu tué ça? Ça n'a pas un peu cassé justement cet esprit de la fête? Et est-ce que, à l'inverse d'être dans une célébration de la vie, on n'est pas dans une célébration de soi quand on fait la fête aujourd'hui?
Si, absolument, c'est exactement ça. Je pense, en tout cas, dans ce qui a abîmé la fête, les téléphones et les réseaux sociaux, effectivement, ont une grosse part de responsabilité. Il y a une phrase, moi, que j'aime bien, tu sais, c'est 50% de la fête, c'est la façon dont on la raconte. La moitié de la fête, c'est la façon dont on la raconte. En gros, on a tous l'expérience, tu vois, d'un lendemain de fête où on passe 2 heures ou 3 heures au téléphone avec nos potes qui étaient avec nous en train de faire la fête ou alors qui n'étaient pas là, mais on passe du temps au téléphone avec eux pour se remémorer ce qui s'est passé, pour leur raconter ce qui s'est passé. Tu sais, pour se dire, ah, tu te souviens, à 2 heures du matin, à un moment donné, telle ou telle personne a été dansée avec telle ou telle personne, ou ah, et tu te souviens, quand à 3 heures on est finalement parti à une autre soirée ou quand la soirée a commencé à dégénérer. Bon, voilà, la fête, il y a une part de récit en fait qui est très importante dans la fête. Le problème, c'est qu'en fait, avec les réseaux sociaux, avec effectivement Instagram, avec Facebook et avec toutes les applications qu'on connaît, la fête, elle se raconte maintenant en direct. Et c'est-à-dire qu'on a tous l'expérience de gens qui passent leur temps lors d'une soirée à prendre en photo en direct ce qu'ils sont en train de voir et ce qu'ils sont en train de vivre. Filmer même en direct des moments de danse, des moments de chant et filmer en direct un peu comme toi, un journaliste de chaîne d'info en continu qui quasiment te tiendrait informé minute par minute de l'évolution de la situation. Bon, bah ça casse le récit de la fête parce que par définition, bah finalement, le lendemain, tu n'as plus rien à raconter parce que tous les gens qui étaient autour de toi, de toute façon, bah, ont fait exactement la même chose que toi, à savoir la filmer. Mmh. Et tous les gens qui n'étaient pas à la soirée, tous les gens qui n'étaient pas en train de faire la fête avec vous, ont vu exactement ce que vous avez fait et ce que vous avez passé et le temps que vous avez passé lors de la soirée parce que bah, ils l'ont vu sur les réseaux, ils l'ont vu sur Insta, ils l'ont vu sur Facebook. Donc effectivement, les réseaux, ça a beaucoup abîmé et ça a rendu malade la fête dans cette absence maintenant de récit qu'on en fait le lendemain. Et évidemment, c'était aussi le début de ta question, ça abîme beaucoup la fête parce que c'est le signe, en tout cas, d'une société quand même très narcissique. Parce que quand les uns et les autres filment, ils filment pas forcément les gens qui sont autour d'eux, mais ils se filment eux-mêmes. Ils se prennent en selfie, ils se filment eux-mêmes en train de faire la fête. Et c'est pour ça que je pense que tous ces outils-là, en fait, ont créé un phénomène qui est qu'on se regarde beaucoup plus faire la fête qu'on ne l'a fait. Et c'est ça, effectivement, qui abîme la fête collective, spontanée, avec autrui, et telle qu'on l'entendait par le passé.
Donc peut-être qu'il faudrait interdire les téléphones à l'entrée des fêtes.
Totalement. Il y a des. Mais moi, je suis grand partisan de ça. Je suis un grand partisan de ça. D'ailleurs, tu as des boîtes de nuit en Allemagne qui ont commencé justement à s'y mettre et qui ont commencé à poser comme condition et à imposer comme condition pour rentrer dans la boîte en question que tes téléphones et que vos téléphones devaient être posés dans le vestiaire, un peu comme on pose des téléphones avant de rentrer dans un conseil des ministres. Alors, je suis pas ministre et je n'ai jamais été, donc ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que ça se passe comme ça pour le coup. Et effectivement, je trouve ça très bien qu'à un moment donné, on pose les téléphones et qu'on les laisse en dehors de la piste de danse. Parce que au-delà du fait que avec vos téléphones, en fait, vous gâchez vous-même le moment parce que vous ne profitez pas des autres et vous filmez en direct le truc, donc ça pète le récit comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça crée aussi des comportements assez standardisés et assez artificiels parce que par définition, vous avez plein de gens qui vont se comporter d'une façon très différente parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir le risque d'être filmés, ils peuvent avoir le risque d'être pris en photo et personne n'a envie de se retrouver en photo le lendemain sur les réseaux sociaux ou dans un film sur les réseaux sociaux en train de danser ou en train de faire le fou parce que l'image qu'on a de nous dans une fête n'est absolument pas l'image que l'on renvoie quand on est dans la sphère professionnelle par exemple. Et donc le problème des téléphones dans une fête, c'est que ça aseptise beaucoup les comportements, les attitudes, on s'empêche de faire beaucoup de choses par crainte d'être filmé, par crainte d'être pris en photo. Et par ailleurs, ça crée des attitudes, des comportements qui sont justement liés au fait d'être pris en photo. On a tous l'expérience d'amis à nous, ou de nous-mêmes d'ailleurs, qui faisons à un moment donné une pause ou se mettons à chanter d'une façon très particulière parce qu'on sait qu'on est en train d'être filmé. Et donc, on se met en scène et on se met en pause. Et ben ça, en fait, ça annihile beaucoup un comportement et une attitude légère qu'on devrait normalement avoir dans une fête, mais la légèreté qui disparaît effectivement à partir du moment où on sait qu'on est filmé en direct, un peu comme quand un responsable politique est filmé aussi lors d'un déplacement ministériel.
Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu vois, enfin, moi, ça m'a toujours marqué, tu vois, sur les réseaux sociaux, des gens qui, parfois, tu sais, tu vois le début de la story, et en fait, ils font rien, et ils sentent qu'ils sont filmés, du coup, ils commencent à danser de manière un petit peu, tu sais, forte, on va dire. Parce qu'il y a aussi, peut-être, cette injonction à la fête, c'est-à-dire il faut être heureux, il faut montrer que tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu une injonction à cette fête ? Est-ce qu'on n'est pas dans une époque qui est supposée hyper festive ?
Si, si, absolument. Il y a un truc où justement, tu vois, c'était très frappant au tout début du confinement, la façon dont les uns et les autres, effectivement, ont mis en scène leur bonheur, ont mis en scène leur petite vie cool, etc., etc., pour bien montrer que, en fait, leur vie restait cool, leur vie restait agréable et leur vie restait excitante et palpitante. Et effectivement, il y a une espèce d'injonction dans l'époque dans laquelle on est à montrer en fait qu'on vit des moments cool, à montrer qu'on vit des moments sympas, à montrer que notre existence est sympa et un peu cool. C'est un peu la compétition du bonheur en fait sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook et tout. Donc il y a une espèce d'injonction qui crée du coup beaucoup de comportements un peu factices et une espèce de compétition de photos cool effectivement sur les réseaux. Et par ailleurs, tu parles de festivisation et effectivement c'est un sujet que j'ai abordé dans le livre. Ça a été théorisé par un écrivain qui s'appelle Philippe Muret et la festivisation effectivement c'est le sentiment que finalement ça peut être la fête tout le temps et il peut y avoir de la fête partout. Alors que par définition, pour revenir sur ce qu'on se disait au début de l'émission, la fête c'est normalement un moment à part, c'est un moment séparé. Pour qu'il y ait fête, ça veut dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de fête. Sinon la fête par essence, toi, elle disparaît, elle perd de son intérêt. Sauf que l'époque effectivement dans laquelle on est, il y a un côté fête permanente. Alors c'est pas des vraies fêtes, mais c'est des éléments et des outils, des monuments qui prennent la trace d'une fête. Tu te balades dans des magasins, balade-toi par exemple dans le magasin Sephora sur les Champs-Élysées, tu as le sentiment de rentrer dans une espèce de boîte de nuit avec le son d'un DJ et avec du parfum partout qui te donne le sentiment d'être dans une boîte avec tout un tas d'individus parfumés à outrance, etc. Tu te balades dans les rues des grandes métropoles et dans les grandes villes. Tout est fait pour te donner un espèce aussi d'expérience un peu cool, un peu festive, comme si un peu tu te baladais dans un parc d'attractions. Balade-toi dans des monuments historiques qui portent pourtant beaucoup de gravité et qui ne sont par essence pas très festifs. Et tu t'aperçois que de plus en plus de monuments, pareil, intègrent une partie un peu cool, un peu sympa, pour donner le sentiment qu'aussi c'est un petit peu une fête. Tu vois, je suis hyper frappé de voir que des musées comme le musée de l'immigration à Paris, qui est pourtant par essence plein de gravité et qui n'est pas le truc le plus drôle et le plus festif, et c'est très bien parce que faut y justement des endroits pleins de gravité et pleins de teneur. Bah le musée d'immigration accueille chaque année la Fashion Week et accueille des défilés de la Fashion Week comme pour montrer que le cool peut être partout et que la fête peut être partout. Et bah quand la fête est partout, finalement, ça signifie que la fête, elle est nulle part. Et ça veut dire que la fête qu'on connaît effectivement le vendredi soir ou le samedi soir est diluée dans ce flux permanent de festifs dont on a le sentiment qu'il est un peu partout. C'est un peu la même chose d'ailleurs, toi, dans la sphère professionnelle. Tu as le sentiment maintenant que, en fait, dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, la multiplication des pots de départ, la multiplication des after-work, la multiplication de tous ces moments un peu cool, rendre en fait la fête du vendredi soir et samedi soir moins originale et moins extraordinaire, parce que tu as le sentiment que déjà toute la semaine, tu as fait la fête à peu près tous les soirs entre la multiplication des dépôts, des after-work et de toutes ces conneries venues tout droit des États-Unis.
Ça fait un peu penser au Chief Happiness Officer, tu sais.
Absolument, c'est exactement ça. Le Chief Happiness Officer est exactement le symbole de l'injonction à la fête dans les entreprises, mais qui en plus est un problème, je pense, parce que tu vois, la fête, normalement, c'est le désordre. La fête, c'est la rupture avec l'ordre établi. C'est quelque chose d'un peu immaîtrisable. C'est quelque chose sur lequel, finalement, les pouvoirs publics n'ont pas la main. C'est quelque chose sur lequel la sphère professionnelle n'a normalement pas la main. Sauf que la fête en entreprise, la fête développée par la sphère professionnelle, donne le sentiment que c'est la société capitaliste, en fait, qui essaie de maîtriser aussi la fête. En multipliant les after-work et tout, bah, en fait, ça permet au monde de l'entreprise, à la sphère professionnelle, de maîtriser la fête, de la contrôler. Mmh. C'est beaucoup plus rassurant pour des patrons de savoir que leurs salariés font la fête en after work, ensemble, de façon organisée, quand c'est organisé et piloté par l'entreprise, plutôt que de les savoir un peu partout dans la ville à faire la fête de leur côté sans trop savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il y a une espèce de volonté comme ça, de maîtrise de la fête de la part de l'entreprise qui effectivement fait que bah, la fête n'est plus tellement une rupture avec l'ordre établi. Et un dernier élément sur ça, la fête en entreprise, c'est aussi utilisé comme un produit dopant pour être plus performant le lendemain. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des effectivement partie de patrons qui peuvent se dire bah, si je maîtrise la façon dont mes salariés font la fête, si j'organise moi-même la fête, ils vont être heureux, donc ils seront plus performants demain. Ils seront plus performants sûr, le surlendemain, ils seront heureux d'être dans la boîte. Alors que normalement, la fête, elle est gratuite, elle est désintéressée. Il n'y a pas d'objectif au-delà d'être heureux, au-delà d'être bien. Et donc, voilà, la fête qui commence à devenir un produit dopant pour être plus performante, je crois que c'est déjà le début de la fin.
Et puis, pour revenir sur ce que tu disais sur la fête est partout et du coup, la fête est nulle part, il y a aussi